Radio Kapi.
Grève des infirmiers et agents administratifs des hôpitaux publics à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Troisième jour aujourd'hui, ces agents réclament notamment le paiement et l'augmentation des salaires et primes non encore perçues. Cette grève impacte déjà le bon fonctionnement des hôpitaux, notamment à Bukavu. Conditions de détention déplorables et inacceptables dans les prisons de Makala et de Ndolo ici à Kinshasa, constat du ministre des Droits Humains, Albert Fabrice Puella, effectué sa toute première visite de travail dans ces prisons. L'invité de ce matin, le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Benjamin Alunga Boni, parle notamment de l'appui de la MONUSCO, les dérapages et autres bavures de certains éléments des forces de l'ordre contre les civils en cette période de l'état de siège. Madame, Messieurs, bonjour. Les infirmiers et agents administratifs des hôpitaux de l'État à Kinshasa sont en grève des 3 jours et depuis mercredi 9 juin. Ces agents réclament le paiement ainsi que l'augmentation des salaires et primes non encore perçues, mais aussi l'octroi des numéros matricules aux nouvelles unités. Célestine Massoudi Tamboué a fait le tour de certains hôpitaux et elle nous propose ce reportage.
À notre arrivée ce jeudi à la clinique Ngaliema, la majorité des agents étaient à l'extérieur à l'exception des médecins. Tous les services fermés, pas d'accès à l'hôpital et même les corps ne sortent plus de la morgue. Les services minimums n'est disponible qu'aux urgences et à la réanimation. Les grévistes trouvés sur place réclament le traitement égal entre eux et les médecins. Ils en appellent à l'implication des autorités, faute de quoi la grève se poursuivra.
Au niveau du ministère, on a très peu de considérations à toutes les autres catégories de professionnels de santé et il y a une seule catégorie qui est privilégiée.
J'ai commencé à travailler ici, ça fait 13 ans passé. Je n'ai jamais été mécanisé.
S'il n'y aura pas la suite, le lundi, on sèche les hôpitaux.
À l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, c'est le même constat. Pour le docteur Christian Kwabi rencontré sur place, la prise en charge des malades est affectée. Il demande à son tour aux autorités de vite régler le problème.
Ça impacte la prise en charge parce que nous savons que les infirmiers, ce sont nos collaborateurs les plus proches. Nous demandons à ce que les autorités puissent revoir le plus vite possible cette situation parce que nous voulons qu'il y ait quand même de l'harmonie dans la prise en charge de nos malades.
Sachez que le même mouvement de grève est observé à l'hôpital de Kintambo ainsi qu'à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe.
Au Sud Kivu aussi, cette grève des professionnels de la santé non médecins est observée. En plus de l'augmentation de leurs primes de risque, ils réclament la mécanisation des nouveaux agents recrutés depuis 2011. Déjà, cet arrêt de travail impacte le bon fonctionnement des hôpitaux, constat à Bukavu de Cynthia Bachizi.
Nous sommes à l'hôpital général de Bagira. Ici, l'appel à la grève a été très suivi. Infirmiers et personnels administratifs sont tous absents. Et cela n'est pas sans conséquence. Témoignage d'une malade hospitalisée après avoir été opérée et du docteur Justin Badele Kuguma.
On a fait des soins 3 fois par jour. Il y a les injections, il y a des comprimés et des massages. Mais depuis les mardis, même les infirmiers n'ont pas encore passé.
Docteur, est-ce que c'est un médecin maintenant qui va faire le travail de l'infirmier?
Exactement. Nous sommes obligés maintenant d'être au four et au moulin. Il faut maintenant essayer quand même d'administrer les soins. Il y a certains examens des labos aussi qui ne sont pas faits.
Outre les soins, ce mouvement social causera un grand manque à gagner pour les finances de l'hôpital, tel que l'affirme Gaspard Colombo, l'administrateur général de l'hôpital de Bagira.
Les agents ne sont pas au travail. On sent réellement qu'il doit y avoir ce manque à gagner pour ce mois.
Pour sa part, Cosmos Bichicha, ministre provincial de la Santé, estime qu'un secteur de la santé effectivement décentralisé pourrait pallier à cette crise.
Sur les 12 000 agents professionnels de la santé, seulement 4 000 ont accès à la prime. On continue à mener les plaidoyers parce que la prime serait payée dans la province si effectivement on rétrocédait l'intégralité de notre 40%.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Sachez qu'à Kinshasa, le ministre de la Santé publique s'est entretenu hier avec la délégation du Syndicat national des professionnels de la santé. Au cours de cette rencontre, il a été question pour le docteur Jean-Jacques Mbungani de s'enquérir des informations et comprendre les motivations réelles du mouvement de grève déclenché dans les différents hôpitaux publics de la capitale. Cela en vue d'y trouver des solutions palliatives pour le bien-être de la population. Le ministre de la Santé publique a rassuré la délégation syndicale que toutes leurs revendications sont prises en compte
comptes et seront soumises au Premier ministre qui va convoquer incessamment une réunion avec les ministres en charge des finances et du budget, et ce, en attendant que cette question soit débattue au prochain Conseil des ministres. La Suède et le PNUD annoncent un nouveau partenariat portant sur 20 millions de dollars au profit de la RDC. La cérémonie de signature de l'accord de ce partenariat a eu lieu hier au siège du PNUD à Kinshasa. Témoin de l'événement, Jean-Pierre Elali Koko.
L'accord de ce partenariat qualifié d'exceptionnel par les deux parties a été signé par Henri Rasbrandt, ambassadeur de la Suède en RDC, et le représentant résident du PNUD, Dominique Sam, représentant la directrice du bureau régional pour l'Afrique du PNUD, Madame Aouna Ezikimoa. Ce montant de 20 millions de dollars devra couvrir les deux premières années. Il devrait subséquemment atteindre un total de 40 millions de dollars. Pour Dominique Sam, représentant du PNUD en RDC, ce financement est historique et devrait couvrir plusieurs secteurs du programme arrêté avec le gouvernement.
Et pour nous, c'est historique. Pourquoi? Parce que c'est la première fois où on signe un accord, pas pour un projet, mais pour un cadre de programmation pour les résultats de haut niveau. Dans des domaines qui seront très clairs, très critiques pour soutenir la tension politique.
Cet accord montre une ambition commune à renchérir pour sa part l'ambassadeur Henri Rastband.
Cette ambition commune d'accompagner la RDC dans son développement pour un futur, on espère, prospère.
Pour rappel, la Suède est présente en RDC depuis 1960 et apporte son soutien à ces pays.
Kasaï Oriental, le gouverneur intérimaire annule enfin la disposition prise par le ministre provincial des Finances exigeant au cortège funèbre de payer des taxes au poste de péage à la sortie et à l'entrée de la ville de Mbujimayi pour inhumation des morts. Dans un communiqué officiel publié mercredi, Jeannette Longa Muswamba rejette cette décision et demande par ailleurs à la population d'organiser les obsèques dans le strict respect des gestes barrières. Esther Ndalafina pour les détails.
Dans son communiqué publié ce mercredi, le gouverneur des provinces intérimaires annule la décision prise par le ministre provincial des Finances. Le communiqué indique par ailleurs que les cortèges funèbres sont exemptés de payer les droits de passage à l'entrée et à la sortie de la ville, surtout les postes de péage, pour des raisons d'ordre humanitaire. Jeannette Longa recommande cependant à la population d'organiser les cortèges funèbres dans le strict respect des gestes barrières. Ce communiqué du gouverneur des provinces intérimaires a réjoui les organisations de défense des droits de l'homme depuis la diffusion de la décision du ministre provincial des Finances exigeant le paiement d'une taxe au péage à tous les cortèges funèbres. Plusieurs voix s'étaient fait entendre pour rejeter cette mesure. Certaines organisations de défense des droits de l'homme ont à cet effet souhaité que le poste de péage du pont Lobilanji soit même délocalisé pour permettre aux cortèges funèbres d'accompagner les défunts dans leur dernière demeure dans la paix. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, les conditions de détention à la prison centrale de Makala et à celle de Ndolo ici à Kinshasa sont des plus déplorables et inacceptables. Il faut que des solutions urgentes soient prises pour désengorger ces deux établissements pénitentiaires, constat du ministre des Droits humains Albert Fabrice Puella. Il s'est ainsi exprimé hier à l'issue de la toute première visite de travail qu'il y a effectuée. On l'écoute dans cet extrait choisi par Pele Kipela Mondo.
Ce que nous avons constaté comme ministre, nous en gardons la primaire pour les autorités afin que nous puissions y apporter des solutions. Il ne nous revient pas d'en dresser les tableaux, mais ce qui est sûr, les conditions de détention sont des plus déplorables, très déplorables, et il importe que des solutions urgentes soient trouvées pour désengorger les deux prisons les plus importantes de notre pays. Prenez pour la prison centrale de Makala, c'est-à-dire le centre pénitentiaire d'éradication de Kinshasa, construit ou prévu pour 1500 personnes, qui regorge plus de 9000 pensionnaires. Malgré la grâce présidentielle, se retrouve à plus de 8440. C'est trop, c'est l'overdose, c'est inhumain. Surtout dans cette période de troisième vague de la grande pandémie qui est en train de décimer la population, ici à la prison militaire de Ndolo, prévue juste pour 540. Mais nous avons plus de 2060 pensionnaires, civils, militaires, femmes, tous compris. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Il nous revient de trouver les mesures les plus urgentes qui soient pour désengorger justement.
Entre-temps, 48 heures après son acquittement, la veuve du général Delphin Kayimbi et sa tante ont été arrêtées et mises en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis mercredi. Le parquet de grande instance de la Gombe les poursuit pour une seconde fois pour tentative d'évasion présumée, acte qu'elles auraient posé 8 jours avant le verdict au procès du meurtre du Delphin Kayimbi, soit le 30 mai dernier, alors qu'elles étaient en résidence surveillée, ce que dénonce le conseil de la veuve parlant d'une tracasserie judiciaire. Des détails avec vous, Jeff Ngoy.
Grande sera encore la surprise. Madame Brenda sera amenée à la prison centrale de Makala sous bonne escorte, uniquement organisée pour elle et sa mère. Pour elle, c'est une sorte de tracasserie de bas étage, blanchie. Elle dit, ce n'est qu'une goutte d'eau et qu'elle va s'en passer. Elle est sûre de remporter cette bataille.
Selon le procureur, le code pénal congolais punit d'un an toute tentative d'évasion, que ce soit en prison ou en résidence surveillée. Rien à voir avec l'affaire du meurtre de son mari. Mais l'avocat de la veuve, Maître Bijou Tivoadi, n'y croit pas du tout.
Ayant connaissance de la tentative d'évasion comme infraction, nous serons surpris, Madame Brenda ne sera nullement entendue sur ce qui lui est reproché, mais contrairement, elle sera entendue sur un autre dossier d'un conflit parcellaire. Laquelle parcelle? C'est son mari qui avait contracté.
Le parquet signale encore l'existence d'une plainte contre Brenda Nkoy pour une affaire de conflit parcellaire. Cette plainte gisait au dossier depuis longtemps, mais ce n'est pas pour ce fait qu'elle a été arrêtée. Il annonce par ailleurs de faire appel au verdict rendu sur l'affaire du meurtre.
L'Ituri est devenue la principale province en RDC en termes de besoins humanitaires. Propos du coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC le mercredi à Radio Kapi Bunia, Diego Zoria, qui vient de boucler une visite de 2 jours en Ituri, a redit sa préoccupation face à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Ituri et a attiré ainsi l'attention de la communauté internationale sur les besoins toujours grandissants, cause des conflits armés qui ont jeté dans les rues près d'1 700 000 personnes, quasi sans assistance. Pour ce haut cadre de l'ONU, la solution pour remédier à cette crise passe aussi par la cohabitation pacifique entre les peuples en vue de construire des entités fortes et développées. Diego Zoria au micro de Jean-Claude Loki.
Et la raison pour laquelle je viens, c'est justement pour attirer l'attention de la communauté humanitaire et au-delà de ça, l'attention de tout le monde sur les besoins humanitaires grandissants d'une population extrêmement vulnérable en Ituri, et aussi sur le besoin de trouver des solutions durables aux causes profondes qui continuent à déchirer des communautés qui devraient vivre ensemble avec une réponse humanitaire qui est insuffisante parce qu'on manque de ressources, on manque d'accès, des fois on se fait attaquer, on a des difficultés liées à la sécurité, la logistique dans ce pays est très 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 difficile, prioriser dans ses besoins est toujours très très difficile parce que malheureusement il y a la pauvreté aussi qui sévit. Fondamentalement, ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à partager, c'est apprendre à construire ensemble, non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre, et comprendre que l'unité, la pamoja, au fait, fait la force, et non pas la division et la destruction et la guerre, comme on voit malheureusement sévir trop souvent au Congo.
Direction le Kasaï central. 305 maisons, 3 moulins et certaines écoles ont été brûlées lors des affrontements mardi dernier entre les habitants des localités de Bakwamai et Bakwachia dans le territoire de Dimbelenge. Ce bilan a été présenté hier à Kananga par le gouverneur intérimaire de province qui s'indigne de cette situation liée à un conflit de terre, déplorant les déplacements de plusieurs familles ayant fui ces affrontements. Tarsis Kabatusuila indique que les forces de sécurité ont été dépêchés sur place pour remettre de l'ordre et ramener la paix. Le gouverneur intérimaire du Kasaï central est au micro de François Kadima.
Il s'agit de Bakwamai et de Bakwachia. C'est un conflit qui date de longtemps. Il se dispute la gestion de cette contrée-là qu'on appelle Mutangadibela. Mutangadibela, c'est une petite contrée à quelques pas du lac Mfoa, qui est habité par une population hétérogène. La population venue des groupements de Bakwamai, du groupement de Bakwachia, de Benakanyem et consorts. Ils s'affrontent depuis plusieurs jours. Nous avons été informés et nous avons pris les mesures sécuritaires. L'équipe d'intervention est arrivée sur le terrain. Elle est composée de plus ou moins 36 militaires dirigés par un officier de la police. Il est vrai que la population devant une pareille situation ne trouve refuge que dans les villages les plus proches, qui sont les villages du Kasaï oriental. Mais il y en a même qui sont allés le long du lac
parce qu'il y a aussi d'autres villages.
Actualité Afrique Monde.
Pour la première fois depuis 20 ans, le travail des enfants progresse dans le monde et en Afrique. C'est ce qu'indique un rapport de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, et de l'UNICEF. Début 2020, 160 millions d'enfants étaient obligés de travailler, 92 millions en Afrique. La situation sur le continent est d'autant plus à surveiller que la crise économique post-Covid devrait encore faire progresser ce chiffre. En Afrique, près d'un enfant sur 5 travaille contre un enfant sur 10 en moyenne dans le reste du monde. Au total, 92 millions d'enfants africains âgés entre 5 et 17 ans ont une activité et ne peuvent donc pas aller à l'école.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le vice-gouverneur de l'Ituri, le général Benjamin Alonga Boni, a présidé mardi la cérémonie de remise des deux bâtiments construits par la MONUSCO pour abriter la division provinciale de la protection civile et des affaires coutumières. Dans cette toute première interview accordée à votre radio depuis sa prise de fonction, le numéro 2 de la province de l'Ituri aborde plusieurs points, notamment l'appui de la MONUSCO, les dérapages et autres bavures de certains éléments des forces de l'ordre contre les civils. En cette période de l'état de siège, le général Alonga Boni s'entretient avec Jean-Claude Loki.
Monsieur le vice-gouverneur, bonjour. Vous avez accepté de venir aujourd'hui pour l'inauguration de ces deux bâtiments. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Personnellement, c'est un signe de joie pour moi. Et je vois personnellement et progressivement que l'état des droits s'installe au Congo et surtout en Ituri. Tels sont les vœux de tous les Ituriens, retrouver la paix et travailler vaquer librement dans ses occupations. Mais voilà tel bâtiment construit par les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo, qui sont les Nations Unies, et ces bâtiments dédiés à l'administration publique, ce qui fait que notre pays a quand même de l'estime et de la place dans les concerts des nations.
Vous avez parlé justement de partenariat. Comment jugez-vous la contribution, l'apport de la MONUSCO dans le cadre de la restauration de la paix en Ituri?
Vous savez, un même problème peut être vu en vertical comme en horizontal. Chacun a sa force d'observer les choses. Mais personnellement, je trouve que la MONUSCO est un partenaire privilégié avec qui nous avons évolué bien longtemps. Vous avez le nombre d'années et ça date même depuis des années 60, c'est pas récent. On a toujours conclu des accords et les relations sont plutôt bonnes, malgré les interprétations des uns et des autres.
Voilà. 30 jours que vous êtes à la tête de la province de l'Ituri, dites-moi-vous, avec votre chef hiérarchique, le général Johnny Luboya, il ne s'agit pas de faire un bilan, parce que le travail continue encore. Mais lorsqu'on entend les cris de la population, les déclarations de la société civile, êtes-vous content de leurs plaintes, de leur indignation, de leurs remarques, de leurs critiques?
Nous avons des comptes à rendre à la population. Vous savez, nous sommes dans un domaine purement technique et militaire. Nous avons notre conception à nous par rapport au commun des mortels. La population comprend tout de suite l'état des sièges, c'est aller justement engager la guerre contre le ADFR, pays et consorts. Mais au-delà de ce que pense la population, la guerre a quand même des paramètres. Nous ne devons pas aller tout droit. Nous devons connaître le terrain, connaître la position de la population, connaître l'ennemi et savoir. Et la guerre n'est pas seulement dit, est résolue par les armes. Vous comprenez avec moi, ce ne sont pas seulement les armes qui vont faire taire cette guerre. Il y a certaines approches que nous devons aborder, notamment la sensibilisation, dire à nos enfants égarés qui prennent les armes qu'il est temps de rentrer sur le rail, rentrer de la raison pour qu'ensemble développions l'Ituri. Il y a certaines oreilles qui peuvent nous écouter, d'autres non. Mais ceux qui vont nous écouter, eh bien, ils vont rendre les armes et seront aussi pris en charge par cette même protection civile et par certains accords, par certaines coopératives qui sont chargées exactement à la réinsertion de ces brebis galeuses qui sont nos enfants.
On constate certaines bavures dont sont auteurs les éléments des forces de l'ordre. On arrache les téléphones, on extorque de l'argent. À la nuit tombante, à 19h, 18h30, pour eux, état de siège égale absence de vie. Est-ce qu'il y a un autre qui instaure finalement une heure de couvre-feu?
À ma connaissance, non. Il n'y a pas un ordre de couvre-feu, non. Les libertés ne sont pas restreintes, mais seulement le bon sens veut que nous-mêmes, nous, la population, que nous comprenons qu'à un certain moment, à une certaine heure de la nuit, nous nous abstenons de nos besoins. Les bastonnades, nous les avons entendues. C'est vrai, je ne peux pas me voiler la figure, ce sont nos hommes. Comme les tueurs, ce sont nos hommes. Nous n'aurons jamais des Chinois venir sécuriser la population congolaise. Il n'y en aura pas. Ce sont des Congolais. Mais seulement cherchons à chacun de son côté, la population civile, limiter personnellement les heures de promenade et que les sorties soient utiles, voire nécessaires.
c'est un peu tôt, quoi, 18 ou 19h. Donc, le temps que le monsieur quitte, si c'est pas la ville, pour la maison, déjà, il est arrêté, quoi, voilà.
Mon frère, l'insécurité n'a pas d'heure. Les criminels ne vous diront pas qu'il viendra à 8h. C'est pas tout ce que nous faisons, ce sont les signes dissuasifs, simplement. Nous nous en prenons à personne, mais vous n'avez pas plus tard qu'hier, on a arrêté deux personnes à Mwanga, c'est 7 km d'ici. Ce sont nos frères qui habitent, ils ont présenté les armes. Aujourd'hui, on les a présentés à la presse.
Mais ça, justement, à ces patrouilles, justement, qui, au lieu de faire le travail, peut-être que se mettent à raviver les téléphones, c'est pas de l'argent, à bastonner.
Ces gens-là, je dis de laisser ces pratiques. Mais je vous informe que nous arrêtons chaque jour des policiers parce que tous les patrouilleurs ont chacun un numéro d'appel et d'itinéraire. Donc nous savons qu'à telle heure, un forfait commis à tel endroit, nous saurons immédiatement deviner que c'est de tel groupe. Et nous prenons le commandant, s'il ne sait pas mettre à notre disposition les délinquants, ben c'est lui qui va en pâtir.
Notre invité, le vice-gouverneur de l'Ituri, répondait aux questions de Jean-Claude Loki. C'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo. Merci de nous rester fidèles.